Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
J'ai intitulé le message « Les chrétiens sont-ils des révolutionnaires sociaux ?» Nous avons beaucoup parlé de la nature révolutionnaire du christianisme et de la révolution chrétienne. Nous avons beaucoup discuté des implications sociales du christianisme. Le christianisme a-t-il une influence sur le statut social et les institutions sociales? Et si oui, combien de poids a-t-il? Quel activisme social est justifié bibliquement, etc. Ce simple passage, facile à comprendre une fois que vous le voyez vraiment, dans les versets 17 à 24, nous aidera à nous concentrer sur les priorités de l'expérience chrétienne, en particulier en ce qui concerne les actions sociales. Or, la parole de Dieu parle de presque tous les sujets que nous pouvons imaginer avec autorité, du moins, si ce n'est en particulier, en général. Alors que nous avons examiné 1 Corinthiens, et nous avons constaté que déjà dans les 7 premiers chapitres, de nombreux domaines de la vie ont été abordés dans cette lettre. Au 7e chapitre, nous avons remarqué que Paul écrivait sur la question du mariage. La Bible a beaucoup à dire sur ce sujet particulier. Il parle des célibataires et de leur comportement. Il parle de personnes mariées et de leur comportement. Il parle des personnes divorcées. Il parle de personnes veuves. Il a beaucoup à dire sur ce qui est requis dans un partage. Quelles sont les normes de Dieu pour la vie du mari, de la femme et des enfants? La parole de Dieu aborde beaucoup de choses sur le thème du mariage. Une partie de ce qui est dans la parole de Dieu est contenue ici dans le 7e chapitre de Corinthiens. Comme nous l'avons vu dans les 2 derniers messages, les Corinthiens avaient des problèmes au sujet du mariage. Le problème tenait essentiellement du fait que lorsque des personnes devenaient chrétiennes, certaines pressions étaient exercées sur elles, pour qu'elles se conforment à une certaine conception du mariage. Par exemple, vous êtes une personne célibataire et vous vous retrouvez sauvée dans la ville de Corinthe, et vous assistez à l'assemblée corinthienne. Il y a là-bas des juifs bien intentionnés qui croient, parce que le judaïsme orthodoxe a toujours cru cela, qu'être célibataire, c'est défier la loi de Dieu. Dieu a dit de se multiplier, de remplir la terre, et si vous ne le faites pas, vous anéantissez la postérité de Dieu. Alors les juifs diraient, vous devez vous marier, surtout maintenant que vous êtes chrétien. Ainsi, une pression énorme a été exercée sur des célibataires, dont certains avaient reçu le charisme du célibat ou de l'Esprit Saint, le don de grâce, qui permet de ne pas se marier. Dieu a voulu qu'ils soient célibataires, mais les Juifs leur demandaient de se marier. D'autre part, vous aviez une sorte d'attitude ascétique qui restait de la philosophie païenne, et certains des païens entraient dans l'Église en disant « Ce n'est pas le mariage, mais le célibat. Alors vous pouvez être ascétique, totalement dévoué à Dieu, et vous n'avez aucune des obligations du mariage. Ce que vous devriez vraiment faire si vous êtes marié, c'est divorcer et sortir de votre mariage. Cela allait plus loin que cela, surtout si vous étiez marié à un non-croyant. Quittez-le pour de bon, car il va vous souiller. Et si vous avez des enfants, vous aurez des enfants métis souillés. Voilà donc les éléments qui prêtaient à confusion dans la situation corinthienne en matière de mariage. Certains disaient que tout le monde devait rester ou redevenir célibataire pour pouvoir être totalement dévoué à Dieu. Il y aurait un haut niveau de spiritualité dans l'esprit du juif lié au mariage, et un haut niveau de spiritualité dans l'esprit du philosophe païen lié au fait d'être célibataire. Donc Paul doit parler de ces sujets. Il écrit le 7e chapitre en réponse à cette lutte. Certains contestaient le mariage, et d'autres le droit d'être célibataire. Nous avons déjà vu ce que Paul a à dire aux célibataires, aux mariés, et à ceux qui sont mariés à des non-croyants. Maintenant que nous regardons le verset 17, Paul prend ces choses particulières qu'il a dites et en tire un principe général. C'est très intéressant. C'est très simple et très répétitif. Alors je suis sûr que vous allez partir tous en ayant compris le principe de base. La chose difficile sera comment vous l'appliquez, et le Saint-Esprit devra travailler avec vous. Mais Paul prend les détails qu'il a donnés et en fait une règle générale, dans les versets 17 à 24. Maintenant, voici le principe général. Je vais simplement vous le dire, puis nous verrons l'explication après. Les chrétiens ne devraient pas se préoccuper de changer leurs circonstances extérieures. Les chrétiens ne devraient pas être préoccupés par le changement de leurs circonstances extérieures. Voilà le principe de base. La vie chrétienne n'est pas un problème social. Ce n'est pas une révolution sociale. C'est une régénération spirituelle. Il n'y a aucune raison pour dire « Vous êtes maintenant chrétien, vous devez vous marier. Or, maintenant que vous êtes chrétien, vous devez dissoudre votre mariage pour être célibataire. Maintenant que vous êtes chrétien, quittez ce conjoint non-croyant, ou vous vous souillez. Maintenant vous êtes chrétien esclave, sortez de cet esclavage. Le chrétien ne doit pas s'allier avec la servitude. Vous êtes libre. Envoyez promener votre maître, vous sortez de l'esclavage. » Vous voyez, le christianisme n'a jamais été conçu pour perturber les relations sociales. C'est le message de Paul. Ce qui se passait dans l'église corinthienne était, ils venaient et utilisaient leur christianisme comme justification pour toutes sortes de changements sociaux. Ils abandonnaient leurs maris et leurs épouses. Les célibataires étaient forcés de se marier, quand ils avaient le don du célibat, que Dieu leur avait accordé à des fins uniques de ministère. Les esclaves voulaient quitter l'esclavage en disant, « J'exige d'être libre. Après tout, nous sommes égaux, un en Christ. » Galates 3, 28. Il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Toute cette attitude réactionnaire sociale aurait pu détruire le témoignage de l'assemblée corinthienne, parce que si quelqu'un commençait à voir le christianisme comme une révolution sociale, il la rabaissait et perdait l'occasion de se familiariser avec la réalité du christianisme, une vie transformée et non une réforme sociale. Donc ce que Paul dit est ne transformez pas le christianisme en une chose sociale. Assurez-vous que tout le monde comprend que c'est une régénération spirituelle et qu'elle peut exister dans n'importe quel type de situation sociale. Voilà le contenu fondamental de ces versets. Il ne fait aucun doute dans mon esprit, et certainement dans l'esprit de quiconque étudie la Bible, que le christianisme doit avoir eu un effet profond sur la société. L'accomplissement des miracles, des signes et des prodiges, l'enseignement de l'égalité des sexes, de l'esclavage et de la liberté, la grande préoccupation de la seconde venue de Jésus-Christ, l'idée du jugement à venir, l'idée de la félicité éternelle au ciel, le dédain de toute la richesse terrestre, ces choses étaient très difficiles à comprendre pour le monde, et je suis sûr que cela a eu un effet profond. Au milieu de cet effet, que j'estime légitime à ce moment-là, cela aurait pu avoir un effet plus important et devenir illégitime. Le monde était déjà confus, sans le confondre davantage, en rendant le christianisme non seulement théologique, mais social. Ainsi l'Esprit de Dieu veut s'assurer que le monde garde toujours sa perspective. Oui, il y a des signes et des merveilles. Oui, il y a une préoccupation pour le ciel, les choses éternelles, et un dédain pour les choses terrestres. Oui, il y a la venue du Seigneur Jésus. Pour le chrétien, c'est bon. Pour les non-chrétiens, c'est mauvais. Oui, toutes ces choses sont vraies. Mais restons au niveau spirituel et ne faisons pas du christianisme une justification pour renverser le gouvernement. Parce que lorsque nous faisons cela, alors nous devenons comme chaque révolution et le caractère distinctif est perdu. Maintenant, Paul veut montrer dans ce passage que le fait d'être chrétien ne signifie pas que vous devez créer le chaos en secouant les institutions dans lesquelles vous vivez. Le problème est le suivant. Une relation avec le Christ est compatible avec tout statut social. Vous pouvez être célibataire, marié, veuf, divorcé. Vous pouvez être un païen. Vous pouvez être un homme. Vous pouvez être une femme. Vous pouvez vivre dans n'importe quel type de société, de démocratie ou d'anarchie totale, ou dans une dictature. Vous pouvez être n'importe où, de l'Amérique à Cuba, en passant par la Chine rouge et le monde. Le christianisme est compatible avec tout statut social. Pourquoi? Parce que c'est interne, pas externe. Paul a dit, Corinthiens, si vous voulez bien laisser le monde garder la perspective sans utiliser le christianisme comme justification pour déformer la vérité, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce qu'est la société en termes d'identité de base du christianisme, l'Évangile n'est pas un élément de la société qui révolutionne ou désorganise immédiatement. Par exemple, si une femme devient chrétienne, que devrait-elle être? Une meilleure femme, n'est-ce pas? Si un mari devient chrétien, que devrait-il être? Un meilleur mari. 1 Corinthiens 7 parle de ces deux choses. Si vous avez un ami qui devient chrétien, que devrait-il être immédiatement pour vous? Un meilleur ami. Si un esclave devient chrétien, que devrait-il être? Un meilleur esclave. Un maître qui devient chrétien, un meilleur maître. Un citoyen qui devient chrétien, que devrait-il devenir? Un meilleur citoyen, pas un réactionnaire social. Maintenant, cela est répété à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, de peur que cela ne soit mal compris. Laissez-moi ajouter cette note. Je ne dis pas que le christianisme n'a rien à voir avec l'activisme social. Je pense que la Bible est très claire sur le fait que nous devons répondre aux besoins des personnes, que nous devons soigner les blessés, que nous devons nourrir ceux qui ont faim, que nous devons vêtir ceux qui sont nus, que nous devons loger les solitaires et les exclus. La Bible dit très clairement que nous devons faire du bien à tous les hommes, en particulier ceux de la famille de la foi. Le christianisme a une responsabilité sociale qui veut que les chrétiens recherchent la justice dans une société par les moyens qu'elle leur fournit, que le christianisme doit rechercher des choses justes et honnêtes, et que le christianisme doit dire la vérité de Dieu contre une société injuste. Mais le cœur du christianisme, avec toutes ses profondes ramifications sociales, est toujours ceci. Il s'agit d'une régénération spirituelle, et les personnes transformées spirituellement changeront une société non par la dynamite, mais par le levain, non pas en balayant la société, mais en diffusant le pouvoir du christianisme à travers les vies transformées des personnes au sein de cette société. Je le dirai ainsi, le christianisme interfère indirectement et non directement avec les institutions sociales. Le christianisme a vraiment été la cause de grands changements sociaux dans l'histoire, mais pas en explosant sur cette société, mais en levant cette société, c'est-à-dire en la pénétrant à la racine. Paul révèle la vérité divine selon laquelle le christianisme ne doit jamais devenir une situation sociale superficielle. C'est toujours compatible avec n'importe quelle circonstance terrestre, dans n'importe quelle société. Finalement, à mesure qu'il grandira, les germes de la société, de la justice, etc., commenceront à affecter la société dans laquelle il grandit. Je crois que quel que soit le lieu dans lequel un individu se trouve dans la société, il peut être chrétien, un bon chrétien. Je pense à la Russie. Certaines personnes pensent qu'il serait impossible d'être chrétien en Russie. Savez-vous que l'Église chrétienne en Russie grandit à pas de géant? Je vous ai dit que dans quelques semaines ou quelques mois tout au plus, nous émettrons en Russie. Les messages que nous vous transmettons sont en train d'être traduits en russe. 1 et 2 Pierre pour être diffusés en Russie. L'estimation des auditeurs qui écoutent la parole qui circule se situe entre 14 et 20 millions de personnes qui écoutent une station de radio entièrement chrétienne, avec, je ne sais pas, 1,5 million de watts rayonnant là-bas, qui est tellement énorme que le gouvernement russe ne peut pas se permettre de l'arrêter ou de le bloquer. C'est à l'extérieur du pays. Et ils ne peuvent apparemment pas se payer le matériel nécessaire pour le brouiller. Dieu peut avoir quelque chose à voir avec cela, mais le fait est qu'il y a des personnes qui entendent la parole. Il disait, « Vous savez, nous avons besoin de messages. Nous les traduirons en russe, et nous les achemineront en Russie. » J'ai dit, « Comment allez-vous faire cela ? Oh, tout ce que nous avons à faire, c'est de choisir un CD. Les chrétiens ont des endroits où ils reproduisent tous les CD, et ils les passent partout. » Le gouvernement a peut-être quelque chose à voir avec l'Église organisée, mais il ne peut pas faire quoi que ce soit pour mettre fin à l'appel de Dieu que Dieu est en train d'implanter dans le cœur de ces personnes. Plusieurs m'ont dit que chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, ils estiment qu'environ 14 millions de personnes écoutent la parole de Dieu en Russie. Vous pouvez être chrétien dans n'importe quelle société, car le christianisme est une relation spirituelle avec le Dieu vivant et n'a que peu ou rien à voir avec le statut social. Or, c'est le principe que Paul veut faire passer ici, car il veut que les Corinthiens sachent qu'être chrétien n'est pas une raison pour commencer à changer tous les types de relations sociales. Il répète 3 fois le même principe qu'il énonce au verset 17, au verset 20 et au verset 24. Puis, il l'illustre. Donc, le point numéro 1 est le principe, puis l'illustration. Numéro 2, le principe, suivi par l'illustration. Et ensuite, il termine par le principe à nouveau. Maintenant, remarquez que nous allons commencer par le principe, tout d'abord au verset 17. les mots Dieu et Seigneur dans les manuscrits devraient être inversés. Il devrait donc se lire comme suit, seulement, et c'est probablement une meilleure façon de commencer le verset. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Si Dieu vous a appelé, restez là. Ne créez pas de révolution sociale. Quoi que Dieu vous ait attribué, restez dans cette voie. Tout le monde suit le chemin choisi que Dieu lui a donné. La conversion ne signifie pas que les célibataires qui ont le don de célibat doivent se marier. Cela ne signifie pas que les personnes mariées doivent rompre leur mariage. Ce n'est pas ce qui est dit du tout. Cela ne veut pas dire que si vous êtes marié à un non-croyant, vous le quittez. Non, pas du tout, restez où vous êtes. Si vous êtes esclave, restez esclave. Si vous êtes juif, restez juif. Si vous êtes païen, restez païen. Restez comme vous êtes. C'est le principe général. C'est normal de maintenir votre statut social. Maintenant, je me hâte d'ajouter. Cela ne signifie pas que si vous avez été sauvé à 13 ans et que vous étiez célibataire, que vous devez rester célibataire le reste de votre vie. C'est un principe général, pas une loi absolue. Plus tard, vous verrez comment cela fonctionne. C'est marqué au début du chapitre 7. Rappelez-vous que si vous êtes marié, restez marié. Mais il y a une exception. Si un non-croyant veut partir, laissez-le partir. Il existe donc un principe général qui fait exception. En voici un aussi. Dieu dit, restez comme vous êtes. C'est la règle générale. Maintenant, si vous êtes esclave, restez esclave. Mais si la liberté vous est offerte, prenez-la. Ne soyez pas préoccupés par ce problème. Nous ne devons pas créer une révolution sociale. Pourquoi ? Verset 15. Regardez et rappelez-vous ce principe. Nous l'avons vu la dernière fois. À la fin du verset 15, Dieu nous a appelés à quoi ? À quoi nous a-t-il appelés ? À la paix. Maintenant vous dites, les chrétiens en Russie auraient dû renverser la société russe. Pourquoi ? Quelle justification biblique existe-t-il pour une autre révolution chrétienne telle que la révolution bolchevique qui a mené le communisme ? Ils peuvent être chrétiens dans une société communiste et, lorsque Dieu sera prêt à changer cette société, les racines du christianisme qui se répandront dans cette société risquent de provoquer sa chute. Mais si le christianisme se transforme en chaos social, savez-vous ce que vous avez ? Vous avez exactement ce qui se passe en Irlande et personne ne le comprend. Tout le témoignage du christianisme est totalement détruit, voyez-vous, car le christianisme n'est qu'un problème social. Mieux vaut que l'Église ajoute le levain à la société, au lieu de prendre des armes. Cela ne fait que brouiller les cartes. Dieu nous a appelés à quoi ? À la paix. Restez où vous êtes. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, restez-y. Bienheureux les artisans de paix, a déclaré Jésus. Dans Romains 12, 18, il est dit, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Dans Romains 14, 19, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » 2 Corinthiens 13, 11, « Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous. » Dans Jacques, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Si vous exemplifiez et communiquez la sagesse d'en haut, la sagesse divine, elle est d'abord pure, puis pacifique, et le fruit de la justice est semé en paix. Si vous voulez vraiment susciter la jalousie dans un monde, il va semer quoi ? La paix, par ceux qui font la paix. Dans 2 Timothée chapitre 2, Paul dit à Timothée, « Maintenant, Timothée, tu es un homme de paix. Maintiens cette position pacifique. Il y a une raison à cela. Il dit ceci, « Tu dois redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. » En d'autres termes, Timothée, si tu es si pacifique, patient, doux, Dieu l'utilisera pour amener les personnes à la connaissance de la vérité et les libérer de Satan. Le moyen d'évangéliser le monde ne passe pas par la révolution sociale, mais par la régénération spirituelle. Alors il dit, « Si vous séparez toutes les institutions sociales et créez le chaos, vous n'aiderez pas la cause, pas du tout. » Maintenant, regardez le 17e verset pour certains détails supplémentaires. « Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Le verbe grec pour distribuer signifie attribuer à quelqu'un sa part de quelque chose. Si vous êtes un esclave, qui vous a attribué cette position? Qui est-ce? C'est le Seigneur. Si vous êtes une femme, qui vous a attribué ce poste? C'est le Seigneur. Marié, célibataire, peu importe ce que vous êtes, souvenez-vous de ceci. Tout ce que le Seigneur vous a attribué, quelle que soit la manière dont Dieu vous a appelé, continuez donc à marcher dans cette voie. Si vous êtes un esclave, saviez-vous que Dieu vous a mis dans cette situation avant de vous sauver, et qu'il vous a sauvé dans cet emplacement, pour vous utiliser là où vous êtes? Si vous êtes célibataire, vous l'étiez quand Dieu vous a sauvé. Si vous êtes marié, Dieu a permis que vous soyez marié avant de vous sauver, pour vous y utiliser. Dieu le savait. Dieu vous a sauvé dans une certaine situation. Pour le moment, restez dans cette situation. Marié, célibataire, mariage mixte, circoncis, esclave, libre, quoi que ce soit, votre statut de vie est donné par le Seigneur. Maintenant, c'est une chose intéressante à réaliser. La position au travail que vous occupez et votre situation matrimoniale sont liées au plan de Dieu, même avant que vous ne soyez sauvé. Quand le Seigneur vous a racheté dans cette situation, il vous a racheté pour vous utiliser, au moins pour le moment. Ne soyez pas mécontent. Ne dites pas « Oh, maintenant que je suis un chrétien, je ne veux plus faire cela. Maintenant, je ne parle pas de vous si vous gérez une maison de prostitution ou si vous colportez du whisky d'un état à l'autre. C'est quelque chose de différent, parce que c'est illégal et immoral. Mais quand nous parlons de choses qui ne sont que des choses relationnelles et sociales, qui n'ont aucune valeur morale, Dieu ne s'attend pas à ce que vous laissiez tout tomber dès votre conversion. Dieu vous a mis là pour une raison. Il vous a fait venir avant même de vous avoir sauvé. Et alors c'est simple, restez ainsi. Quelle que soit la situation sociale dans laquelle vous vous trouvez, Dieu peut travailler, et le christianisme peut être compatible avec cela. Alors restez où vous êtes. Ne faisons pas du christianisme le bouleversement de toute la société. Montrons aux personnes du monde, dit Paul, que le christianisme donne de la solidarité à la société, qu'il donne de la solidarité à la vie et non le chaos. Nous ne voulons pas que les femmes abandonnent leurs maris non-croyants pour trouver de beaux maris chrétiens, simplement parce qu'elles sont chrétiennes en pensant qu'elles ne peuvent pas vivre avec un homme qui n'a pas été sauvé. Non, restez là. Maintenant, après avoir énoncé le principe, il l'illustre. Regardez les versets 18 et 19. C'est une illustration fascinante, croyez-moi. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, je ne l'avais pas vraiment compris. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Le mot appelé signifie sauvé. L'un de vous a-t-il été sauvé pendant que vous étiez circoncis? Maintenant, une personne circoncise est un quoi? Un juif, d'accord. Est-ce que l'un d'entre vous a été sauvé en étant juif? Bien sûr, beaucoup d'entre eux. Alors, qu'il demeure circoncis? Vous dites, c'est inévitable. C'est ce que j'ai dit quand je l'ai lu pour la première fois. C'est vraiment bien qu'il demeure circoncis. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Cela semble un peu hors de propos. Vous savez, j'ai fait quelques recherches à ce sujet, car j'ai pensé que si c'était dans la Bible, cela devait avoir un sens. Même si cela semble être un peu difficile, savez-vous qu'il y a eu une période de l'histoire en Israël entre la fin de l'Ancien Testament, avec Esdras et Néhémie, et l'ouverture du Nouveau, dès l'arrivée de Jean-Baptiste, il y avait une période de 400 ans. Pendant cette période, les Grecs ont gouverné en Israël, et il y avait là un homme au nom d'Antiochos qui régnait. Il y avait une réaction intéressante à sa manière de régner. Certaines personnes se sont révoltées contre lui. Les Maccabées, Judas Maccabée et ses fils, juifs très zélés, patriotes et nationalistes. Ils ont lancé la révolution maccabéenne pour se révolter contre Antiochos. D'autre part, certains juifs souhaitaient adhérer au système grec parce qu'ils voulaient gagner des faveurs, un prestige social et un statut social. L'histoire de Judas Maccabée et de sa révolution est contenue dans trois livres, 1, 2 et 3 Maccabées. Maintenant, ces trois livres apparaissent dans l'Apocryphe, qui est la partie non biblique de la Bible catholique, par exemple. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette partie centrale qui comprend Ezra, Bel et le dragon, et tout ce qui s'y trouve. Les premiers, deuxième et troisième Maccabées racontent l'histoire de cette période maccabéenne, au cours de ces années intertestamentaires, Ce ne sont pas des livres bibliques, mais ils ont une histoire intéressante. Cela nous dit que dans le premier chapitre de 1 Maccabée, au verset 11 à 16, qu'il y avait des Juifs renégats qui voulaient s'identifier aux Grecs. Alors ils ont en fait subi une opération chirurgicale pour tenter de retirer les cicatrices de la circoncision, afin qu'ils puissent aller au gymnase, dit Joseph, et sembler incirconcis. Vous dites, pourquoi feraient-ils cela? C'est évident. Ils le feraient dans le but de s'identifier aux Grecs pour leur statut social. Alors savez-vous ce que Paul dit? Écoutez, si vous avez été sauvés, ne faites pas cela. Vous dites pourquoi pas? Laissez-moi vous le dire. Un Juif qui vient à Christ, il est sauvé. Qui serait la personne la plus susceptible de venir ensuite à Christ? Un autre Juif, n'est-ce pas? Et quelqu'un dans sa propre famille. Donc, si un Juif vient à Christ et renonce immédiatement à son judaïsme, s'il veut se faire incirconcis et s'identifier totalement à la culture des païens, que vont dire ses amis juifs? Ils vont l'appeler un quoi? Un blasphémateur, un apostat, qui n'est pas digne du ciel. Supprimer la marque de l'Alliance serait impensable, et il s'éloignerait immédiatement du champ de récolte qu'il est le plus capable de récolter, vous voyez? Alors Paul dit, ne faites pas cela. Il y avait des païens dans l'Église qui disaient, maintenant que vous êtes chrétiens, si vous voulez vraiment atteindre la société des païens, vous allez devoir arrêter, vous savez, le truc juif. Et vous ne pouvez certainement pas venir avec moi au spa local. Ici, tout le monde le saura. Vous savez, vous devez faire quelque chose à ce sujet. Sinon, vous n'atteindrez pas ces personnes. Et il dit, écoutez, restez comme vous êtes. Car si vous essayez d'atteindre ces personnes, vous ne réussirez probablement pas de toute façon. Et vous aliénerez les personnes que Dieu voudrait que vous atteigniez. Votre propre peuple. Chacun de nous a un champ de récolte. Il n'y a aucune raison d'aliéner tous les Juifs qui tiennent beaucoup à leur judaïcité. Je pense que l'une des choses qui est assez excitante aujourd'hui, vous voyez, nous voyons aujourd'hui des Juifs qui sont sauvés et qui ne rejettent pas leur judaïcité. Ils conservent leur judaïcité, ce qui leur permet de retrouver l'accès à la communauté juive, n'est-ce pas? Ils ont peut-être une porte ouverte aux amis et à la famille quand ils entretiennent quelque chose de la croyance et de l'amour du patrimoine juif. Même s'ils l'ont vu se réaliser dans le Messie, il n'y a aucune raison de supposer le fait qu'ils doivent nier tout cet héritage. Le nier et devenir un païen les aliénerait du champ de la moisson dans lequel Dieu leur donnerait le plus de fruits. Maintenant, il la retourne dans la partie suivante du verset 18 et dit « Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? L'un de vous a-t-il été sauvé alors qu'il était incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire ?» Maintenant vous savez de quoi cette histoire parle, n'est-ce pas? Quelques païens sont venus à Christ, et que diraient les Juifs? Oh, c'est tellement bien que vous veniez à Christ, mais écoutez, si vous voulez parler de ce qui est vraiment génial dans le royaume, vous devez subir cette opération. Maintenant, je ne le pense pas que c'était comme en Galatie. En Galatie, ils disaient aux chrétiens qu'ils devaient se faire circoncire pour être sauvés. Je pense qu'ici, ils essayaient de leur montrer qu'ils ont besoin de cela pour avoir toute la bénédiction. La raison pour laquelle je crois cela, c'est parce que Paul aurait été beaucoup plus catégorique s'il s'agissait d'un problème comme celui de Galatie pour le salut. Mais je pense que les Juifs disaient « Vous devez vous identifier au peuple de Dieu. Vous devez vous identifier au peuple de l'Alliance. Et vous aurez juste cette petite opération à faire. Vous savez quoi? Les païens ont méprisé la circoncision. » Et les Juifs en tant que peuple méprisé. Ils croyaient vraiment que les Juifs étaient un peuple de classe inférieure, méprisé. Maintenant, s'identifier aux Juifs aurait alors aliéné un païen de quoi? De tout son peuple. Vous voyez. Alors il se serait aliéné du champ de la moisson que Dieu avait conçu pour lui. Voyez-vous ce que je veux dire? Dieu dit, reste où tu es. C'est là que je t'ai mis. La raison pour laquelle je t'ai mis là-bas, pour atteindre ces personnes. Ne t'inquiète pas de ton statut social, cela n'est pas important. Regardez le verset 19, c'est assez clair. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Aucun des deux n'a d'importance, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Le seul problème est un problème moral, un problème spirituel, non externe. Peu importe l'opération que vous avez effectuée ou non, cela n'a aucun sens. Pour quelque chose qui n'a pas d'importance, cela ne sert à rien. Que vous vous éloignez de tous vos amis et de toute votre famille. Cela n'a aucun sens. Je pourrais en dire long sur le mot obéissance. C'est le cœur de tout, n'est-ce pas? Ce qui compte dans le verset 19, c'est d'observer les commandements de Dieu. Concentrons-nous sur ce qui est important. Ne transformons pas les points mineurs en points majeurs. Ne nous enlisons pas dans les aspects externes, superficiels. Rappelons-nous que le problème est l'obéissance. Très bien. Après avoir énoncé et illustré le principe, il le répète maintenant. Si vous pensez que c'est répétitif, vous avez raison. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, c'est important. Chaque fois qu'il demande à son prophète ou à son apôtre de le dire trois fois, c'est d'autant plus important. Verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Que tout homme reste dans la même situation qu'il se trouvait lorsqu'il a été sauvé. C'est précisément ce qu'il dit. Concentrez-vous sur le spirituel et non sur les circonstances sociales. Les chrétiens doivent être préoccupés par les choses spirituelles. Vous savez, nous vivons dans une démocratie et c'est passionnant. Mais je ne doute pas qu'il existe des chrétiens qui ont la même maturité que nous, qui sont tout aussi dévoués envers Jésus-Christ et qui pourraient recevoir beaucoup plus de récompenses que nous, vivre dans des pays où l'oppression est totale, car le christianisme est compatible avec toute situation sociale. Le souci de Paul, c'est que les chrétiens se rendent compte que le plus important, c'est d'être chrétien, et non pas des circonstances extérieures qui sont relativement ou totalement sans importance. Ne laissez jamais les choses extérieures devenir une importance majeure. Voulez-vous dire que cela signifie que vous ne devez jamais rien changer? Non, il ne dit pas cela. Il ne dit pas que vous ne pouvez pas avoir de promotion. Vous ne pouvez pas progresser dans votre entreprise ou vos études, ni chercher une vie meilleure, ni chercher à augmenter vos revenus, ni obtenir un meilleur emploi, ni changer d'emploi. Non, mais ce qu'il dit, c'est de ne pas perturber l'équilibre social au nom du Christ. En d'autres termes, personne ne devrait vouloir changer de statut dans la vie simplement parce qu'il est chrétien, comme si le christianisme était incompatible avec certains types de positions sociales. Ce n'est pas le cas. C'est compatible avec n'importe quoi. C'est bien adapté à tout homme ou femme, quelle que soit leur situation dans la vie, à condition que cette personne réalise qu'il est essentiel de respecter les commandements du Seigneur. L'obéissance est possible dans n'importe quelle situation. Maintenant, vous pouvez payer un prix plus élevé pour certains que pour d'autres, mais c'est possible. Vous voyez, quand le Seigneur vous a sauvé, il ne vous a pas sauvé pour changer votre statut terrestre. Il vous a sauvé pour changer votre âme, votre destin éternel. Maintenant, il va illustrer cela à nouveau. Regardez les versets 21 et 23, et voici l'illustration numéro 2. C'est une bonne illustration, car il parle de l'esclavage. As-tu été appelé étant esclave, doulos, un esclave lié? Si vous avez été sauvé en tant qu'esclave, ne vous inquiétez pas. Ne fais pas attention à cela. C'est un idiome grec qui signifie « peu importe ». Peu importe. Si vous avez été appelé en tant qu'esclave, cela n'a aucune importance. Vous dites, John, la Bible dit-elle que l'esclavage n'a pas d'importance? Non, non, la Bible ne dit pas que l'esclavage n'a pas d'importance. La Bible dit que si vous êtes sauvé en tant qu'esclave, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez être chrétien en tant qu'esclave. Est-ce vrai? Vous pouvez être chrétien comme n'importe quoi, socialement parlant. Je ne parle pas de choses morales, mais sociales. Paul n'approuve pas l'esclavage. Il dit simplement que l'esclavage n'est pas un obstacle à la vie chrétienne. Vous savez, dans Éphésiens, chapitre 6, Paul a quelques mots pour les esclaves. Vous savez ce qu'il leur dit. Ce n'est pas « Maintenant que tu es chrétien, va voir ton maître et dis-lui « Regarde, toi et moi sommes égaux, je ferai ce que tu veux aujourd'hui, et tu feras ce que je veux demain, et nous allons simplement régler ce problème ». Il dit, serviteur, verset 5 d'Éphésiens 6, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Restez un bon esclave, donne à cet homme tout ce qu'il veut, servez-le de tout votre cœur, comme s'il était Jésus-Christ dans la chair. Donnez-lui tout ce qu'il demande, pas un service à l'œil. Vous savez ce que c'est. Cela fonctionne lorsque le patron regarde. Oh, nous savons cela. Non pas avec un service à l'œil pour faire plaisir aux hommes, mais en tant que serviteurs du Christ qui font la volonté de Dieu avec leur cœur. Et vous faites la volonté de Dieu? Si vous êtes un esclave, vous savez pourquoi vous êtes un esclave? Parce que la volonté de Dieu est que vous soyez un esclave. Il vous a sauvé en tant qu'esclave. C'est là où il vous a placé. C'est très bien. Quoi que vous fassiez, le Seigneur vous récompensera. Servez le Seigneur dans cette situation. Colossiens 3, versets 22 à 24, dit la même chose. Vous dites, la Bible approuve-t-elle l'esclavage? Non, mais elle n'approuve pas non plus que les chrétiens créent une révolution sociale pour tout renverser, parce que cela détourne l'esprit du christianisme. Vous dites, comment pouvons-nous changer l'esclavage? Saviez-vous que la concentration de la justice qui régnait dans le christianisme est vraiment devenue le catalyseur qui a finalement aboli l'esclavage dans le monde? Le christianisme l'a fait. Vous voyez, l'important c'est de servir Dieu, et un esclave ne doit pas s'inquiéter du fait qu'il soit un esclave, il doit simplement servir Dieu. Au fur et à mesure que cette sorte de vie juste pénètre et se répande, la chute d'un système asservi se produira. Maintenant, si le Seigneur tarde, je crois que les germes du christianisme, même dans une nation comme la Russie, entraîneront la chute de cette nation. Je le crois, et cela pourrait arriver beaucoup plus vite que beaucoup d'entre nous ne le pensent. Non, l'important c'est de servir Dieu, et c'est grâce à la vie juste de beaucoup de personnes que Dieu réalisera socialement ses fins dans ce monde. Donc, si vous êtes un esclave, soyez un bon esclave. Si vous êtes un maître, soyez un bon maître. Si vous êtes une femme, soyez une bonne, peu importe ce que vous êtes. Alors il dit, si vous êtes un esclave, ne vous inquiétez pas pour cela, une chose que Paul ne voulait pas. C'est un tas d'esclaves chrétiens révoltés. Pouvez-vous imaginer une révolution chrétienne? Cela ne marcherait pas. Vous savez, c'est ce qu'ils attendaient de Jésus lorsqu'il vint dans le monde. Rappelez-vous. Ils s'attendaient à ce que Jésus vienne, comme le Messie, et renverse Rome. Alors le christianisme aurait fait partie de l'histoire en tant que mouvement politique, n'est-ce pas? Jésus a dit non, ce n'est pas ce que c'est. C'est un changement à l'intérieur. L'esclavage est bon si Dieu vous appelait dans ce statut. Dans le modèle de justice chrétienne, comme le levain se déplaçant à travers une société, c'est la dissolution du mal dans cette société, à mesure que le christianisme pénètre. Remarquez ce qu'il dit au verset 21, à la fin du verset. « Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Mais je ne dis pas que vous devez rester esclave. Maintenant, certaines personnes utilisent ce passage. Elles retournent à la fin du verset pour signifier que même si la liberté vous est offerte, refusez-la. Si vous avez été sauvé étant esclave, vous êtes un esclave. Non. Je pense que ce qu'il dit ici, c'est que si vous êtes sauvé comme esclave, ne vous inquiétez pas pour cela. Mais si la liberté se présente, saisissez-la. Vous savez, à Rome, il y avait la disposition. En fait, de nombreux propriétaires mettaient de côté un pécule régulièrement jusqu'à ce que l'homme puisse acheter sa propre liberté. La définition n'était donc pas nécessairement oppressive. Dans certains cas, il y avait des maîtres cruels, mais dans d'autres, c'était tolérable. Ne vous inquiétez pas pour cela. Mais si votre liberté est possible, saisissez-la. Cela signifie simplement que Dieu vous la donne et vous fait franchir une nouvelle étape. Il y a une bonne illustration de cela dans le petit livre de Philémon. Philémon est un petit livre intéressant, juste après Tite, et avant le livre des Hébreux. Philémon était un homme chrétien à Colosse. Il avait un esclave parmi d'autres. C'était probablement un homme très riche. Un de ses esclaves s'appelait Onésime. Onésime a décidé qu'il voulait sa liberté. Il a donc volé des objets dans la maison de Philémon, a fait son sac et s'est précipité à Rome. Et il pensait se perdre dans la foule à Rome. Tandis qu'il se mêlait à la foule à Rome, il a rencontré un homme très intéressant, du nom de Paul, qui commence une transformation très spectaculaire de la vie d'Onésime. Au verset 10, Paul dit « Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. » Nous ne savons pas comment. Paul était sans aucun doute prisonnier, mais d'une certaine manière, il s'est lié à Onésime et a conduit Onésime à Christ. Onésime est devenu chrétien, et Paul l'aimait. Au verset 11, il dit « Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. » Mais un jour, Paul et Onésime se sont réunis. Ils se sont assis, et Onésime a dit « Paul, je dois te dire quelque chose. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je suis un esclave en fuite. » Cela doit avoir vraiment bouleversé Paul. Qu'est-ce qu'il allait faire? Qui est votre maître? C'est Philémon, vous savez, un chrétien de Colosse. Cela a même aggravé la situation. Que pouvait faire Paul? L'esclavage est une institution pourrie de toute façon. Calme-toi. Je te garderai ici, et personne ne le saura jamais. Ou bien, nous allons simplement te cacher. Mais il y avait une autre possibilité. Je te renverrai avec une lettre disant à Philémon ce que je pense de lui, en tant que propriétaire d'esclaves. Philémon aurait pu recevoir cette lettre. Cher Philémon, laisse tous tes esclaves s'en aller. L'esclavage est une institution pourrie, mais Paul aurait pu simplement dire « Non, selon cette société, nous avons un statut social de maître et d'esclave. Tu es un esclave, tu as désobéi aux règles de la société. Tu dois y retourner et faire les choses correctement. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a renvoyé Onésime avec une lettre. Et vous savez ce que dit cette lettre? Philémon, voici ton esclave. Il a vraiment été formidable avec moi. Et je l'ai conduit vers Jésus-Christ. L'accepterais-tu comme frère? Le prendras-tu dans de bonnes grâces, en tant que ton bon esclave? Je pense qu'il vous servira mieux qu'auparavant. Onésime s'en va avec la lettre. Vous savez, il risquait beaucoup, car à cette époque, les esclaves fuyants pouvaient être tués. Ou mieux, ils pouvaient être marqués comme une bête, sur la tête. Ils mettaient un gros F sur leur tête pour fugitif. Il aurait donc pu payer le prix fort. Mais Onésime, maintenant dans les liens du Christ, remonte et donne la lettre. Et la tradition nous dit que Philémon l'a embrassé à bras ouverts et qu'ils étaient comme des frères ensemble, même s'ils ont continué à être un esclave et un serviteur. Maintenant, dans tout Philémon, Paul ne dit rien sur l'esclavage. Il ne le condamne pas. Il ne dit pas à Philémon de libérer Onésime. Il accepte simplement le statut social dans lequel était Onésime. Et il savait qu'il pouvait revenir en arrière et devenir un esclave, et que cela n'aurait aucun effet sur sa vie chrétienne. Or, certaines personnes ont reproché à Paul de ne pas avoir attaqué le système de l'esclavage. Mais le fait est que si le christianisme avait encouragé la fin de l'esclavage, le christianisme aurait été perçu comme une révolution politique, et les chrétiens auraient été tués dans une révolution. J'ajouterai autre chose. Si les esclaves chrétiens avaient commencé à perturber la société, le but principal, l'évangélisation, aurait été perdu au sujet de la foi en Jésus-Christ. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé en Amérique. Chaque fois que le christianisme s'attache à un mouvement social, le message du christianisme est totalement perdu. Compte tenu de la foi chrétienne, l'émancipation est inévitable, mais le temps n'était pas mûr. Alors Paul dit, « Ne vous préoccupez pas de votre état terrestre, ne vous préoccupez pas d'une situation superficielle, l'obstacle majeur est interne. » Maintenant, regardons le verset 22. Ici, il trace un paradoxe très intéressant qui n'est pas vraiment compréhensible à première vue. Mais dans la simplicité, c'est très clair. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Celui qui est appelé dans le Seigneur, tandis que celui qui est sauvé, alors qu'il est esclave, est vraiment l'homme libre du Seigneur. Comprenez-vous cela? Je veux dire, qu'importe si vous êtes un esclave humain ou physique, si vous êtes libéré du péché, libéré de Satan, libéré de l'enfer, libéré de la malédiction de la loi. Je veux dire, qu'importe que vous ayez à servir quelqu'un d'autre, vous êtes vraiment l'homme libre de Dieu. D'autre part, il dit, de même, celui qui est appelé à être libre, autrement dit quelqu'un qui est sauvé, alors qu'il est un homme libre, devient l'esclave de Christ. Tout ce qu'il dit, c'est simplement, vous êtes peut-être un esclave physiquement, mais vous êtes un homme libre spirituellement, et vous pouvez être un homme libre physiquement, mais vous êtes un esclave spirituellement. En d'autres termes, il montre simplement que rien ne compte vraiment à la surface. Peu importe que vous soyez physiquement lié ou libre, il importe seulement que vous soyez à la fois lié spirituellement et libre dans le paradoxe du christianisme. Comprenez-vous ce paradoxe? En tant que chrétien, vous êtes le serviteur de Jésus-Christ, et pourtant en tant que chrétien, vous êtes libre de la loi, du péché, de Satan, de l'enfer, de la malédiction. Comprenez-vous ce paradoxe? C'est ce qu'il dit. Christ vous a totalement libéré pour être son serviteur. Ne vous inquiétez pas de la situation superficielle dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, il va encore plus loin au verset 23. Il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Ne vous considérez plus jamais comme un esclave. Vous êtes peut-être un esclave physique, mais ne dites pas « Je dois me débarrasser des liens de mon esclavage ». Écoutez, vous n'êtes pas vraiment un esclave des hommes. Si vous êtes un esclave chrétien, vous êtes un esclave chrétien parce que Dieu vous a mis là, et il vous a racheté à un prix, et vous êtes son esclave, son serviteur. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Éphésiens 6, à savoir que lorsque vous servez votre maître, faites-le de bon cœur, comme pour qui ? Pour le Seigneur. Vous êtes vraiment au service de Dieu. Vous devez obéir à votre employeur, comme s'il était Jésus-Christ incarné. C'est son argument. Si je suis un esclave, mon service est à Dieu. Si je suis libre, mon service est à Dieu. Ce n'est pas grave. Il m'a acheté, avec un prix. Quel était le prix ? 1 Pierre 1, 18 et 19 nous dit que le prix était le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache. Vous êtes vraiment le serviteur de Dieu. Ne vous inquiétez pas des choses externes. Il répète le principe au verset 24. Que chacun frère demeure devant le Seigneur, dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Quelle que soit votre situation quand vous avez été appelé, quel que soit le statut dans la vie qui vous a été attribué par la souveraineté divine de Dieu, maintenez-le, conservez-le. Dieu vous a mis là pour une raison. La conversion n'est pas un signal pour un homme de quitter son emploi, pour un homme de quitter sa femme, pour un homme de paniquer et vouloir se marier à tout prix. Non. Toute la vie est à Dieu. Nous sommes tous ses serviteurs. Il nous place dans des situations différentes, et nous devons le servir là où nous sommes. Concentrons-nous sur le service spirituel, concentrons-nous sur l'obéissance, et laissons le social s'occuper de lui-même. Car le levain de la justice imprégnera une société et provoquera des changements. Alors Paul dit aux Corinthiens, « Ne faites pas de votre christianisme la cause de la haine du monde. Si le monde doit le rejeter, assurez-vous qu'il le rejette avec la connaissance de Jésus-Christ, et non pas en rejetant la peur d'un jeu politique que vous pouvez faire de leur société. » Prions ensemble. Père, nous avons partagé ces moments brefs, et maintenant notre temps est écoulé. Nous reconnaissons que tu as répété et répété ce principe, et pourtant nous luttons tous dans nos cœurs pour en faire l'application dans nos vies. Pour certains, l'application peut être très claire. Il se peut qu'une personne célibataire, ici même, soit convaincue que ce célibat est un don de Dieu. Mais on lui met la pression pour qu'il se marie. Puisse-t-il ne pas s'attendre, Père, à ce que le mariage comporte une plus grande bénédiction. Certains peuvent être mariés, Père, et peut-être parce qu'ils sont mariés à une personne qui n'a pas été sauvée. On les encourage à quitter cette personne et à ne pas rester. Père, qu'ils réalisent que leur christianisme n'est pas une raison pour partir. Certains ont peut-être un certain emploi et ont le sentiment que, parce qu'ils sont maintenant chrétiens, ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Ils ne peuvent pas supporter la position de servitude qu'ils ont. Puissent-ils se rendre compte que même en tant qu'esclaves, ils peuvent être tout aussi bons chrétiens que n'importe qui en position d'autorité. Père, il y en a peut-être qui voudraient rendre leur judaïcité, ou même le contraire. Nous prions, Seigneur, que cela ne soit pas le cas, mais qu'ils soient reconnaissants pour leurs origines du passé, racialement et nationalement, qui leur permettra d'atteindre les personnes qui font partie de leur vie et de leur patrimoine. Père, aide-nous à comprendre que, comme Paul l'a dit, dans quelque état que je sois, je suis donc satisfait. C'est la règle qui devrait gérer nos vies. Quand il y a un changement, quand la liberté vient, nous pouvons aussi l'utiliser. Quand le mariage vient, pour ceux qui sont célibataires, alors c'est quelque chose que Dieu a en tête. Nous pouvons aussi l'utiliser. Mais Père, puissions-nous toujours nous attarder sur les choses principales et intérieures, pas sur les extérieures, mais sur ce qui concerne l'obéissance à tes commandements et le respect de ta vérité, afin que le monde soit amené à la repentance et à la reconnaissance de la vérité qu'il voit en nous. Nous prions au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.